Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Gloria, gloria in excelsio. Luc la liberté est de retour avec nous. Bonjour Luc.
Bonjour Guillaume, comment vas-tu?
Très bien, très bien. Alors, comment ça se passe, ou pas du tout, chez nos voisins du Sud, et comment est-ce que ça va impacter sur l'avenir du monde? Là, raconte-nous ça.
Là, tu disais, qu'est-ce qui va impacter? Je crois que j'ai raté le début de la question, Guillaume.
Ben, je disais, alors, parce que là, les États-Unis font pression oui. beaucoup sur l'Allemagne dans le cas de l'Ukraine.
Oui.
Qu'est-ce qui est en jeu ici, là?
Voilà, donc, écoute, j'écoutais tout à l'heure, un peu plus tôt aujourd'hui, le dirigeant du Pentagone, M. Austin, qui est pas particulièrement émotif ou qui va pas de nombreuses effusions. C'est assez clair dans son non-verbal que le refus jusqu'à maintenant de l'Allemagne de fournir des chars d'assaut, les fameux Léopard 2, donc qu'on souhaite fournir à l'Ukraine.
Et de bloquer les autres, là, parce que des Léopards, pas mal de monde en a acheté, le Canada en a, la Pologne, la Finlande.
Voilà.
Il y a un paquet de pays qui disent, c'est correct, là, sont déjà embarqués sur les trains, on veut les envoyer en Ukraine. Et là, l'Allemagne dit, peut-être pas, là.
Voilà, parce qu'il y a deux choses là-dedans. Hein. On a même débattu. Je recommence. C'est le premier froid qu'on sent bien réel et qui se rend jusque dans les médias, qu'on véhicule, c'est le cas de le dire, sur la scène internationale, dans cette vaste alliance qui appuie l'Ukraine depuis le début. Et il y avait comme deux données autour des mêmes chars. Dans un cas, c'est est-ce que l'Allemagne est prête à fournir ses chars? Faut penser à M. Scholz en Allemagne qui, lui, gère une population où il y a plus de 40% des gens qui disent non, on ne devrait pas faire ça. Il y a une question de politique intérieure également qui est en jeu. Mais il y avait aussi des pays comme la Pologne ou comme d'autres, t'en as mentionné quelques-uns, qui possèdent ces mêmes chars et qui disent, ben écoutez, on va pas attendre l'Allemagne. Nous, on en dispose de ces chars-là. Envoyons-les sur le terrain. Et là, on a dit, ben ils sont de fabrication allemande et nous, on veut pas embarquer dans ce jeu-là. On a même relancé du côté allemand les Américains en disant, écoutez, vous avez des chars qui sont l'équivalent en termes de performance. Pourquoi ne les envoyez-vous pas sur le terrain? Les Américains ont rappelé, c'est pas tout à fait le même genre de char. Le ravitaillement en termes de pièces, puis l'alimentation, on parle de jet fuel, donc du carburant finalement pour les avions. On dit, écoutez, c'est leur envoyer un cadeau empoisonné que de leur donner ces chars-là, là où on est placé, puis dans le type de conflit dans lequel on est impliqué présentement. Donc, on le sait, il n'y a pas eu beaucoup de failles, il n'y a pas eu beaucoup de querelles ouvertes. Là, on sent que du côté de l'Allemagne, c'est très, très difficile. Du côté américain, ben, on veut toujours, bien sûr, préserver cette unité-là, mais on commence à taper du pied. Je le sentais un peu, le secrétaire à la Défense, impatient plutôt.
Luc, j'ai une question pour toi, parce que l'argumentaire allemand est « on veut pas jeter d'huile sur le feu, on voudrait pas que cette guerre, bon, froide ou tiède, se réchauffe davantage ». Dans les faits, là, il y a personne. L'Allemagne donne déjà plein de choses à l'Ukraine. L'OTAN est parfaitement et totalement engagée. Est-ce qu'il y aurait véritablement une transformation de la perception de l'Allemagne dans ce conflit-là? Pourquoi c'est cette hésitation-là sur presque un point de détail là, sur l'ensemble des choses?
Écoute, moi, je pense qu'on va en arriver là de toute manière. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. Là, on analyse, puis parfois, j'ai presque l'impression qu'on suranalyse ce dossier-là depuis le début. On arrive bientôt là, à une année complète de conflit dans lequel il y a des choses pour lesquelles on a misé juste, d'autres pour lesquelles on a eu des surprises. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus qui pourrait correspondre à une escalade? Est-ce que ça pourrait être plus grave que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en termes d'implication? Je le crois pas et ça vaut pas pour les Américains non plus. Qu'on dise que le type de char qu'on ne veut pas envoyer, c'est moins pratique au plan stratégique sur le terrain, ça je le comprends. Qu'on dise on crée une escalade, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à coût de dizaines de milliards de dollars en termes de matériel, en termes de missiles, je pense pas que c'est ça qui va changer effectivement la perception ou l'opinion qu'on a des pays qui soutiennent l'Ukraine. Et quand je dis qu'on n'a pas le choix d'en arriver là ou presque, on voit que M. Poutine, fort finalement d'un renouvellement des troupes, se relance. On est à l'attaque et on va envoyer de plus en plus d'hommes. Puis là, écoute, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais des hommes que M. Poutine n'hésite pas à utiliser comme de la chair à canon et on arrive à faire des progrès en sacrifiant beaucoup d'hommes. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'en arriver là. De toute façon, c'est une question de temps. Ensuite, est-ce qu'il y a, comme c'est le cas pour l'Allemagne, des incitatifs ou des irritants en politique intérieure? Parce qu'il faut le dire, l'Allemagne a sacrifié aussi depuis le début du conflit. C'est jamais le type de sacrifice qu'on exige des Ukrainiens, bien entendu, mais des pays qui collaborent, qui ont ouvert leurs frontières, qui ont donné et qui paient le prix aussi en approvisionnement, parce qu'on travaillait aussi de concert au plan économique avec les Russes. L'Allemagne a beaucoup donné. C'est l'hiver là aussi là-bas, quand le gaz ou le pétrole coûte plus cher, on s'en rend compte encore plus vite que chez nous. Donc, est-ce qu'il faut prendre le temps que notre population accepte tout ça? Il y a peut-être de ça qui joue. C'est peut-être un irritant avec lequel ouais. M. Scholz doit composer.
Et ça. Et eux, je disais, nous, on a Hydro-Québec. L'Allemagne, elle, était appuyée sur Hydro-Moscou, là, pour le dire en parallèle.
Voilà.
Tu vois, Luc, j'ai l'impression que depuis un an, la stratégie de l'OTAN était « il faut que l'Ukraine ne perde pas ». Et là, la grande question, c'est est-ce que la stratégie devrait être ou doit être « il faut que l'Ukraine gagne ». Et là, ça, c'est le bout qui est peut-être pas encore partagé également entre les alliés. Changeons de perspective. Trump, encore lui, qui est toujours en train de poursuivre un et l'autre. Et là, finalement, il y a un juge qui a dit « fini les folies ». Là.
Juge de Floride, Donald Middlebrooks, écoute, un jugement de 46 pages. C'est ce que tous ceux qui croient que le bon sens existe encore rêvaient de lire. En tout cas, écoute, je m'inclus dans le groupe. Rêvaient de lire depuis 2015-2016, puis peut-être même depuis plus longtemps que ça, si on a suivi la carrière de M. Trump, qu'on remonte aux sources. Il a dit à M. Trump, c'est des poursuites qu'on a lancées contre Hillary Clinton, mais aussi des membres de l'administration, mais des membres du FBI, disant essentiellement qu'il y avait conspiration entre Hillary Clinton et le FBI. Et le juge Middlebrooks, il mâche pas ses mots. D'abord, écoute, le titre le plus fort, c'est un génie, finalement, d'abus du système judiciaire.
Ça, Trump. C'est le mastermind. C'est très dur, les mots qui sont là-dedans. Là. Il est pas sur la clôture. Là. C'est le bulldozer
non,
en disant
pas.
Ça va faire les... C'est fait, je pense que j'ai vu les mots... presque le festival des poursuites frivoles, sans fondement.
Voilà. Bad faith, donc c'est déposé en toute mauvaise foi. Et il a dit que c'est un individu qui est reconnu, c'est son avocate qui est avec lui, Alina Baba, qui va payer le prix également. Là, c'est quand même une somme assez impressionnante, c'est quand même $1 million qu'on leur demande de verser pour avoir tout simplement déposé ces accusations-là. C'est à la hauteur des quoi on avait perdu le décompte, on était presque à 60 poursuites là, entamées par des avocats de Donald Trump après l'élection de 2020. C'est un peu dans ces eaux-là. C'est que les juges disaient « donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse faire un procès. Ce que vous nous amenez ne tient tout simplement pas la route. » Et c'est là où on disait aux partisans du président « écoutez, à un moment donné, il va falloir lâcher le morceau. Qu'on ait des recours légaux, c'est légitime. Démocrates et républicains y ont accès. Mais encore, faut-il avoir une cause à la base? » Ce qui n'était pas le cas dans 59 cas sur 60, si ma mémoire est bonne. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme la caricature de jugement qu'on attend après les démarches qu'intente Donald Trump à répétition. Et c'est comme ça qu'il a réglé ses affaires personnelles très, très longtemps, en multipliant les recours devant les tribunaux. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire comme politicien? Est-ce qu'on peut le faire comme candidat? Est-ce qu'on peut le faire comme président? Ben, dans un sens, je suis content. Donc, même temps, il y a... Oui?
Ben, je dirais, aux États-Unis, les juges, des fois, sont nommés. Souvent ils sont nommés, mais il y en a même qui sont élus. Ce juge-là, j'imagine la réponse de Trump, ce sera pas « vous avez raison, monsieur le juge, je m'excuse ». Est-ce qu'il est vu comme un démocrate? Est-ce qu'il est vu comme partisan? Comment est-ce qu'ils vont essayer de le dépeindre, là?
Si on fait la... J'aime beaucoup, beaucoup ta question, parce que j'allais dire, il y a une prise pour Donald Trump, malgré tout, derrière ça, si on remonte très loin. Quand on regarde l'ensemble de sa carrière, il n'y a rien de douteux, rien qui puisse permettre de remettre en question son jugement, les opinions rendues au terme de certaines causes. Mais si M. Trump fait l'effort d'effectuer quelques recherches ou qu'il demande à ses proches de le faire, ce juge-là est entré en scène au fédéral en 1992, mis en place par... Après 1992, mis en place par Bill Clinton.
Ah, voilà! Alors, voilà, là!
La
conspiration vient d'éclater, là. Tout ça est arrangé.
Voilà. Mais là encore, mais il faut se donner la peine de... Mais écoute, on est dans une période qui me fascine. Parfois, ça me rend triste, d'autres fois, ça m'amuse. Mais ça me fascine, la politique américaine, ces jours-ci, parce qu'il y a tellement... On nage tellement en eau trouble, souvent. Quelqu'un qui se donne la peine de lire, et je sais que parfois tu le fais, t'es ce genre à lire, à aller au-delà des premières grandes lignes et des résumés, Il prend la peine, le juge, d'étayer argument par argument pourquoi ça ne tient pas la route. Et je défie n'importe qui de sensé de lire ça et de dire que le juge n'a pas raison. Mais encore faut-il donner la peine de lire le jugement puis de dépasser les gros titres. Mais donc, c'est très dur, puis c'est ce qu'on s'emploie à répéter souvent comme analyste. C'est pas d'être pour les républicains ou contre les républicains. Donnez-nous quelque chose qui tienne la route, qu'on peut expliquer. Pas sur du vent, pas dans un monde parallèle. Ben voilà. Alors le cerveau, le génie de la manipulation du système judiciaire, a-t-il dit ce bon juge Middlebrooks?
C'est quand même assez extraordinaire. Et faut-il le rappeler dans toute la logique là, des élections volées, évidemment entre guillemets de 2020, 100% des causes déposées par Trump et son camp ont été écartées du revers de la main par tous les tribunaux dans tous les États. Dans tout, démocrate, républicain, tout le système judiciaire a dit, c'est du grand n'importe quoi, là.
C'est ce que j'allais dire, et c'est très important, parce qu'on en est rendu là, à remettre en question le système légal en disant, ben, ils sont démocrates ou républicains. Les juges nommés par des républicains, même des juges nommés par Donald Trump, se sont retournés contre lui en disant, c'est une blague. On peut pas vous laisser entrer puis débattre intelligemment de ça ici. Vous avez rien. Apportez-nous une cause. Monsieur Giuliani a joué ce qui lui restait de réputation dans ces dossiers-là, d'ailleurs.
Oui, ça, c'en est un autre dont faudra qu'on se reparle.
Oui, voilà.
Luc Laliberté, un grand merci. On se reparle.
Une bonne fin de semaine.
Bye-bye.